France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Un Noël aux saveurs inédites cette année. Masque sur le nez, mains désinfectées, pas plus de 6 adultes à bonne distance les uns des autres à table. L'épidémie de Covid-19 a chamboulé la fête, même s'il n'y avait pas de couvre-feu cette nuit en France. Hier soir, la messe de minuit a débuté dans certaines églises à 15h pour accueillir les fidèles par groupe. Le pape François a, lui, célébré la messe devant quelques 150 fidèles seulement, masqués devant la basilique Saint-Pierre de Rome. Et alors que les Français n'ont jamais autant réalisé de tests Covid ces derniers jours avant de retrouver leurs proches, le nombre de contaminations quotidiennes augmente toujours, près de 21 000 nouveaux cas en 24 heures. Mais le taux de positivité est finalement en baisse, ce qui signifie que le nombre de tests est proportionnellement plus élevé que le nombre de cas positifs recensés. Dans le journal de 6h30, nous entendrons le député du Haut-Rhin, Jean-Luc Retzer, l'un des premiers contaminés par le virus à la fin de l'hiver dernier, qui a finalement pu fêter Noël en famille hier. Dans une demi-heure aussi sur France Culture, nous reviendrons évidemment sur l'accord trouvé hier entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Accord sur le Brexit du 31 décembre prochain. Ce moment marque l'aboutissement d'un long voyage, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Jeudi prochain à 23h heure anglaise, minuit heure française, le Royaume-Uni aura définitivement abandonné le marché unique, mais ne se verra pas imposer de droits de douane pour ces produits qui entrent dans l'Union européenne. Voilà ce que dit l'accord. De chaque côté de la Manche, on se félicite de cette conclusion, les arguments des uns et des autres dans une demi-heure. Enfin, soulignons qu'à la frontière avec le Royaume-Uni, les routiers expérimentent déjà la fin de la libre circulation des citoyens, marchandises et services. Des milliers de camions attendent toujours de pouvoir passer la frontière au port anglais de Douvres. Ils doivent tous faire un test Covid-19, les chauffeurs de camions en tout cas, pour pouvoir rejoindre le continent. La queue semble toujours interminable ce matin.
Dans leur variété et leur complémentarité, l'ensemble des sciences sociales offre plus que jamais des clés pour comprendre le monde.
Autant, suspend ton vol. La pandémie a plombé l'horizon et nous a fait changer de temporalité. Sommes-nous condamnés à l'éternel présent ? La suite dans les idées, par Sylvain Bourmeau, avec François Hartog, historien, et Philippe Jean, écrivain, ce samedi à 12h45 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Oui, France Culture, c'est une radio, mais c'est aussi un grand jeu de société qui s'appelle Prenez l'antenne.
160 ans plus tard, on a enfin mis un nom sur cette célébrité anonyme.
Arnaud Laporte.
Constance Quenniot, identifiée comme le modèle de l'origine du monde de Courbet. L'héroïne d'Histoire d'eau.
À qui les atlantistes s'opposent-ils traditionnellement ?
Émilie Aubry.
Aux pacifistes ? Aux continentalistes ?
Vous êtes curieux et joueur ? Alors oui, le nouveau grand jeu de société de France Culture, Prenez l'antenne, est pour vous. En vente en magasin et sur Internet, toutes les informations sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez toujours France Culture, c'est l'heure du monde vivant. Ce matin, Bruno David fait l'éloge de l'âne, un cerveau entre deux oreilles.
3 fois 7, 19, répond Jules. Espèce d'ignorant, clame l'instituteur, tu auras le bonnet d'âne. Une allusion à d'anciens temps scolaires. Dans cette classe, le bonnet d'âne visait à humilier Jules, le cancre, une punition inefficace qui n'aidait en rien l'apprentissage du calcul mental. Quoique, une interprétation suggère que les clercs du Moyen-Âge souhaitaient que ce bonnet transfère à l'élève l'intelligence de l'âne, car l'âne a été réputé intelligent à certaines époques. La plupart des dictons populaires laissent pourtant penser le contraire. Ils en font un animal têtu comme une mule, borné, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, stupide, bête comme un âne batté, voire même lubrique, du fait des érections spectaculaires du mâle. Qu'il s'agisse des fables d'Ésope comme de La Fontaine, d'Alphonse Daudet ou même des aventures de Pinocchio, l'âne est le plus souvent un lourdeau. S'il ne fait pas le pitre comme l'âne de Shrek, il est déprécié. Injuste, car notre âne fut un supplétif de la science, protagoniste d'une querelle entre deux géants de l'histoire naturelle du XVIIIe siècle, Linné et Buffon. Buffon, intendant des jardins du roi, avait une vision fonctionnaliste du vivant. Dit simplement, il recommandait de classer les espèces sur la base de ce qu'elles font, de leurs interactions concrètes. Pour lui, il convenait de ranger l'âne aux côtés du chien, car ils se côtoient tous les jours. A l'inverse, Linné, le classificateur suédois, recommandait de ranger les espèces sur la base de similitudes morphologiques. Son système révélait le plan divin de la création. Linné classait ainsi l'âne avec le zèbre, qui habite pourtant un autre continent. Qu'en est-il ? L'âne domestique, Equus asinus, est un mammifère de la famille des équidés. Mais, confirmation de la science moderne, les différentes espèces d'ânes sont plus apparentées aux zèbres qu'aux chevaux. Pas si surprenant si l'on pense simplement à son museau bicolore, proche de celui du zèbre. Notre âne est issu de la domestication de l'âne sauvage d'Afrique, Equus africanus. Sa présence en Égypte est attestée dès le 5e millénaire avant notre ère. Il s'agit du second animal domestiqué pour le transport après le bœuf. Mais en cette matière, il a ses limites. Il boit 40 litres d'eau par jour et ne peut charger que des masses modérées. Qu'à cela ne tienne, il aide les humains. D'ailleurs, pour les chrétiens, l'âne est présent parmi les animaux de la crèche où il symbolise fidélité et obéissance. Il existe aujourd'hui un nouvel engouement pour l'âne, apprécié comme animal de compagnie. Il revient pour le plaisir et son intelligence est reconnue. Pour finir, permettons-nous un anachronisme impertinent en concluant que Buffon comme Linné aurait mérité un bonnet d'âne. Car on ne classe pas selon les modes de vie, mais sur la base de caractères partagés qui, toutefois, ne sont pas les fruits d'une création, mais l'héritage d'ancêtres communs. Est-ce bien l'âne qui mérite un bonnet ?
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture.
Au terrible tonnerre fracassant, j'ai donné le feu et j'ai fendu le chêne vigoureux de Jupiter avec sa propre foudre. Le promontoire, sur sa forte base, je l'ai fait trembler et par leurs racines, j'ai arraché le pin et le cèdre. Sur mon ordre, les tombeaux ont réveillé leurs dormeurs, se sont ouverts pour les laisser sortir tant mon art est puissant. Mais cette magie brute, ici je l'abjure. Et quand j'aurai requis une musique céleste, ce qu'à l'instant je fais, pour agir selon mes fins sur les sens de ceux à qui s'adresse ce charme aérien, je briserai ma baguette, l'ensevelirai à plusieurs brasses dans la terre, et des profondeurs jamais atteintes par la sonde, je noierai mon livre.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
William Shakespeare, pour commencer cette journée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, tous les jours de la semaine, tôt à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast. Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée et aujourd'hui, je reçois Astrid de France, que vous venez d'écouter, clamée du Shakespeare, et Jules Stromboni, qui font revivre Shakespeare, ou du moins ses écrits, ses pièces, ses tirades, dans le monde chaotique d'aujourd'hui. Paris audacieux et totalement réussi. Shakespeare World, tel est le titre de la bande dessinée éditée par Casterman, que je vous recommande vivement en ces temps de crise politique, économique, sanitaire et climatique.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Astrid de France.
Bonjour.
Bonjour Jules Stromboni.
Bonjour.
Alors Astrid de France, on va commencer par vous, puisque c'est vous qui avez pris la parole. C'est vous la spécialiste de Shakespeare.
Oui, entre guillemets, oui.
Oui. Et comment est née cette idée de faire une bande dessinée avec votre cousin Jules Stromboni ?
Eh bien, c'est Jules qui m'a proposé de travailler avec lui. Parce qu'on lui avait fait une commande pour une biographie de Shakespeare en bande dessinée.
Jules Stromboni ?
Oui, effectivement, on m'a fait cette commande de raconter la vie de Shakespeare en bande dessinée. Alors, je vous avouerai qu'au début, ce sujet ne m'intéressait pas beaucoup. Je veux dire, Shakespeare est tout à fait passionnant, mais la vie de Shakespeare, honnêtement, je voyais pas ce que je pouvais en dire, sachant qu'on n'en sait pas, énormément. Et tout de suite, j'ai pensé à
quelqu'un de la famille qui lui connaît bien Shakespeare.
Exactement. Et donc, j'ai pensé à Astrid, qui est notamment comédienne, traductrice, et qui connaît bien Shakespeare. Et on a commencé à travailler dessus, et on s'est dit que ce qui est intéressant, enfin la seule certitude, c'est les écrits, c'est ce qui reste, peu importe l'identité de cette personne ou de ce groupe de personnes qui ont écrit ce texte. Nous, ce qui nous intéressait et la matière dont on s'est emparé, en fait, c'est vraiment le texte.
C'est-à-dire le texte, est-ce qu'il peut résonner aujourd'hui? Reprendre les écrits de Shakespeare, ses pièces, et de voir si ça peut illustrer ce qu'on vit aujourd'hui, Astrid de France.
Oui, et c'est presque même l'inverse. Moi, je lisais Shakespeare et j'avais l'impression que ce qu'on vivait aujourd'hui illustrait ce qu'avait écrit Shakespeare.
Là, ça marche dans les deux sens.
Voilà.
Et puis, vous avez donc inventé une histoire, parce qu'il faut une histoire pour arriver à vos fins. Et c'est l'histoire d'un petit chien nommé Roméo, comme par hasard, qui se glisse un jour dans le caveau de William Shakespeare. Il y dérobe un os et c'est la malédiction. Et ça va déclencher une terrible panique dans tout le royaume. Bientôt, l'Angleterre va être sous les eaux. Les mouvements nationalistes et racistes et xénophobes vont menacer l'unité de ce pays. Bref, les citoyens britanniques sont possédés par le texte de Shakespeare, par le théâtre de Shakespeare, et en même temps, ils nous racontent un peu le monde d'aujourd'hui.
On est parti d'une réalité, c'est-à-dire que sur la tombe de Shakespeare, il y a un épitaphe en quatre lignes qui, en gros, te dit « Toi, mon bon ami, pour l'amour de Jésus qui passe par ici, respecte mes os, sinon tu seras maudit. » Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de pilleurs de tombes qui s'emparaient des ossements d'hommes célèbres et les revendaient. Et en fait, on a pris l'épitaphe au pied de la lettre. Donc ce petit chien, Roméo, qui s'appelait Bardi avant, mais voilà, pour des raisons, pour la contrainte qu'on s'était fixée, on a été obligé de l'appeler par le nom d'un des personnages de Shakespeare. Donc Roméo s'empare du fémur de Shakespeare et d'un coup déclenche la malédiction. Et cette malédiction, c'est la contrainte de l'album, c'est-à-dire, à partir de ce moment-là, tous les personnages parleront uniquement à base des citations de Shakespeare.
C'est une galerie de personnages, hein, de la reine d'Angleterre en passant par les hommes politiques jusqu'aux gens du peuple. Vous avez décidé de donner un aperçu d'une Angleterre à feu et à sang, emportée par des passions ravageuses.
Disons que les thèmes abordés dans les pièces de Shakespeare, ce ne sont pas juste comment assaisonner la pintade. C'est beaucoup plus, ça prend une ampleur tout de suite politique. Voilà, on essaie de recouper avec un peu tous les thèmes qu'on retrouve dans les pièces.
Oui, et puis c'est vrai que les pièces de Shakespeare sont très complexes, très denses. Et c'est intéressant effectivement de pouvoir faire vivre une multitude de personnages, donner un souffle un peu épique et puis en même temps il y a cette volonté vraiment de faire vivre un maximum le texte.
Original,
tout à fait.
Est-ce qu'à un certain moment où vous êtes posé la question, est-ce qu'il fallait adapter le texte de Shakespeare au parler d'aujourd'hui, même si tout ça passe par la traduction, mais on se comprend.
Oui, la question s'est beaucoup posée, effectivement. Mais en même temps, ce que nous, on voulait exalter et ce qui nous émerveille aussi, c'est vraiment cette langue. Avec ce qu'elle, parfois, effectivement, ce qu'elle peut avoir d'ardu, peut-être pas forcément d'adapté à la bande dessinée. Mais c'était le pari aussi de se dire que nous, on allait la donner à lire, malgré aussi ce en quoi elle peut effrayer un peu.
Mais l'idée, c'était de rendre hommage à William Shakespeare ou de raconter le monde d'aujourd'hui en trouvant les mots les plus appropriés dans l'œuvre de Shakespeare.
Non, l'idée de départ, c'était vraiment de rendre hommage à Shakespeare et vraiment à son théâtre. Mais c'était forcément aussi de l'utiliser, en quelque sorte, pour retranscrire aussi une perception de ce qu'on vit et vraiment utiliser ce pouvoir cathartique du théâtre, quoi.
Comment vous avez initié votre cousin Jules Stramboni au monde de Shakespeare, à Astrid de France ?
Il était pas très réticent, donc ça va.
Ouais.
Non, on a beaucoup, on s'est pas mal échangé des livres.
C'est vrai que la première étape de travail, ça a été chacun de lire de son côté, de relever des textes qui nous paraissaient soit beaux, soit d'actualité, soit drôles. Et on les a rassemblés, on les a écrits un peu comme sur des post-it, on les a étalés et on essayait de trouver les liens, soit les situations qui pouvaient les amener.
Ça part des situations que les personnages ont été créés.
Mais c'est ça qui est très marrant dans la construction de ce livre, c'est que c'est pas forcément nous qui voulions raconter telle histoire. C'est finalement le texte qui nous a dragués vers telle situation et qui du coup Astrid a cherché des morceaux de texte qui nous permettent de raconter la suite de l'histoire, mais pour atteindre en fait une autre citation qu'on voulait atteindre. C'était ça le grand jeu, quoi.
Et c'est tout Shakespeare qui a été donc lu,
oui.
Analysé.
C'est tout le Shakespeare dans la Pléiade. Alors, certaines œuvres sont contestées comme étant de Shakespeare, mais bon, ça... Mais oui, tout Shakespeare a été passé à la Moulinette et il y a quand même 31 pièces qui sont citées dans le livre.
Mais on peut pas dire que tous les dialogues, ce sont des textes de Shakespeare.
Alors presque tout.
Presque tout, hein, parce que c'était ça la mission, quoi.
C'est la mission. Alors il y a l'introduction qui est écrite par Astrid et moi. Et en fait, à partir de l'introduction, ce qui concerne 4 pages, on va dire 4 planches. Après, c'est vraiment uniquement que du Shakespeare.
Shakespeare World, c'est édité chez Casterman et nous sommes ce matin avec les deux auteurs, Astrid de France et Jules Stamboni.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Le monde court à sa perte, c'est l'histoire de la fin du monde ou la fin d'un pays, l'Angleterre, puisque à la fin de cette bande dessinée, Shakespeare World de Jules Stamboni et d'Astrid de France, l'Angleterre va disparaître pour des causes qui sont connues aujourd'hui, hein, c'est-à-dire pour des raisons politiques, climatiques, c'est-à-dire toutes nos angoisses sont dans cette bande dessinée, dans cette histoire qui a pour particularité de faire entendre le Shakespeare, c'est-à-dire c'est à partir des pièces de Shakespeare, des tirades de Shakespeare, que vous faites parler vos personnages pour raconter cette histoire, Astrid de France.
Oui, tout à fait. Disons que la contrainte qu'on s'était donnée et cette volonté de faire parler Shakespeare donnait une grande liberté aussi pour expurger cette vision de ce qui se passe actuellement et qui se passait d'ailleurs pas encore à ce moment-là. Je veux dire, quand on a commencé à écrire, il n'était pas question de Brexit. Mais finalement...
Jules Stamboni ?
Je pense qu'il y avait une volonté quand même de parler de crise politique, de crise climatique. C'est une observation de ce qui nous entoure. Moi c'est vrai que j'ai... Par exemple, ce qui m'a le plus frappé et vers quoi je suis allé naturellement, c'est... La vision un peu spectaculaire, cette société du spectacle dans laquelle on vit, était déjà là, en fait. Shakespeare, on parle beaucoup, il compare souvent l'existence humaine à une pièce de théâtre. Et aujourd'hui, comment les gens se mettent constamment en scène, sont leurs propres metteurs en scène, et leurs propres spectateurs. Et ça, il en parle énormément. Voilà. Par exemple, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a tout de suite parlé. Ouais.
En entendant Jules Stramboni, Astrid de France, oui, c'est aussi un choix de faire parler Shakespeare dans la langue politique. Vous auriez pu choisir le Shakespeare parlant des rapports amoureux, mais non, c'est plutôt le Shakespeare dénonçant les rapports de domination.
Oui, effectivement, parce que
ça, c'est un choix.
Ça, oui, c'est un choix, et parce que je trouve que c'est très intéressant. Et surtout, quelque chose qui me semble très important chez Shakespeare, c'est qu'il permet, c'est qu'il fait dialoguer des points de vue radicalement opposés. Disons qu'il n'est pas du tout manichéen, les choses sont finalement toujours beaucoup plus complexes qu'elles n'y paraissent. Et en ça, je trouve ça très intéressant, et surtout, il y a toujours cette notion de la chute inéluctable du pouvoir en place et de l'avènement d'un autre tyran. Et oui, c'est une machine qui broie l'humanité sur son passage.
S'il fallait parler du traitement graphique de cette bande dessinée, Shakespeare World, Jules Stramboni, pourquoi avoir choisi le parti pris des couleurs vives ?
Alors les couleurs vives, elles concernent surtout la première partie.
Oui.
Trois parties dans cet album, trois actes.
Et, comme dans une pièce.
Comme dans une pièce, on a respecté,
de qui vous savez.
A respecté cette structure dramaturgique.
Mais qui n'est pas shakespearienne.
Mais qui n'est pas shakespearienne pour le coup, bon. Et en fait, donc la première partie, je la voulais très contrastée. Quelque chose de pop, de très populaire, d'assez virulent. Et petit à petit, en fait, on assiste à une, au fil des pages, on assiste à une désaturation des valeurs et qui se termine. L'album se termine dans des teintes de bleu, de brun, qui sont comme noyées en fait dans justement. Bah,
je vais pas tout dévoiler, mais... On comprendra à la fin pourquoi il a utilisé ce voilà. terme, il a utilisé ces mots-là.
Voilà, mais c'est vrai que c'est ce que je voulais. En fait, je tenais consciemment à ce qu'on démarre sur quelque chose de très contrasté pour arriver à quelque chose de beaucoup moins évident. Justement, cette ambivalence dont parlait Astrid dans les pièces de Shakespeare, elle est matérialisée en fait au niveau des notamment des couleurs.
Astrid de France, est-ce le fait d'avoir fait du théâtre, c'est-à-dire sans doute jouer des pièces de Shakespeare dans un cadre très limité, c'est-à-dire celui du théâtre, qui vous a donné envie d'emporter avec vous les mots de Shakespeare, la mentalité, les idées de Shakespeare dans le monde contemporain, en dehors du théâtre ?
Oui, bien sûr. Parce que si j'avais pas été comédienne, je n'aurais peut-être jamais lu Shakespeare. Parce que on pense que c'est pas pour nous. Enfin, je sais pas, c'est une écriture qui a quand même 400 ans, mais qui est immense, vraiment. Et effectivement, de l'avoir joué, de l'avoir vu jouer, ça donne envie de la partager.
Il y a quelques personnages qu'on reconnaît, des personnages. Bon, il y a vos personnages de fiction, les personnages fictifs, mais il y a aussi la reine d'Angleterre comme repère principal, je dirais, mais aussi Orson Welles, par exemple.
Oui, mais ça, c'est des vestiges un peu de la première mouture du texte, c'est-à-dire qu'on travaillait sur la trace, mmh. et donc sur la citation, au sens très large. Et tous ces... Bon, la reine d'Angleterre, ça, c'est parce que ça, bon, ça se déroule à Londres aujourd'hui, mais par exemple Orson Welles, voilà, il a fait des très belles adaptations des pièces de Shakespeare. J'ai travaillé sur Kurosawa aussi, qui a fait d'autres très belles adaptations. Et voilà, ça c'est vraiment des vestiges du début où on avait des scènes avec Orson Welles. Les dialogues sont pas du tout ceux qu'il y a dans l'album, mais voilà, c'est des sortes de traces, de références, de comme ça. J'ai pas d'autres idées en tête, mais il y a un personnage qui ressemble un peu à DiCaprio. Voilà, c'est tout ce que cette culture actuelle s'empare tous les jours de Shakespeare, fait des citations dans les séries. On n'arrête pas de citer Shakespeare. Les Lady Macbeth, il y en a des millions. Voilà, nous on a travaillé vraiment sur la trace et la trace généralisée.
Et quand vous dites on a travaillé, vous avez travaillé très souvent à distance. Astrid de France, vous habitez toujours Paris.
Oui.
Plus Jules Stramboni, qui a quitté donc Paris depuis quelques années.
Effectivement.
Et même un peu en colère d'ailleurs. Pour un retour à la terre très militant, c'est ça ?
C'est une facette de moi, mais bon, non, je suis pas spécialement en colère envers Paris.
Non, mais comment on peut travailler justement à distance ?
On a fait quand même toute une première étape de travail à Paris, puisque c'est quand même là que beaucoup de choses se passent aussi. Mais une fois qu'on avait fait ce premier travail, on s'est retrouvé deux trois fois pour confronter l'avancée du travail. Mais une fois que les choses étaient écrites, moi, il y avait toute une partie de juste réaliser la fabrication de l'album. Je pouvais dessiner dans mon coin. Je soumettais à Astrid une fois que c'était dessiné. Et voilà, c'est très simple de travailler à distance.
Est-ce que votre vie a changé, Jules Stromboni? Excusez-moi de déborder du cadre de votre bande dessinée Shakespeare World, mais est-ce que votre vie a fondamentalement changé depuis que vous avez quitté Paris? Parce que à Paris, vous pouviez faire du cinéma d'animation. Vous en avez fait, et avec des films que tout le monde a vus, qui ont été récompensés, comme Le Persepolis de Marjane Satrapi. Du jour au lendemain, vous avez décidé de quitter Paris. Pourquoi?
Parce que je n'aimais plus la vie que je menais à Paris. Et que j'avais envie de découvrir autre chose.
En l'occurrence, les Cévennes.
En l'occurrence, j'ai pas démarré par les Cévennes. J'ai démarré par Toulouse, donc déjà un peu plus. J'y suis allé progressivement quand même. Mais effectivement, pour atterrir après dans les Pyrénées-Orientales, où j'ai construit ma propre maison sans outils électriques, enfin sans électricité, pour après migrer dans les Cévennes. Enfin voilà, ça fait 15 ans que moi je suis nomade. Et honnêtement, j'ai découvert une vie qui me donne le sentiment de plus exister, quelque part. Oui.
Même en tant qu'auteur de bande dessinée, d'être loin des maisons d'édition, par exemple, ou des boîtes de production de films d'animation, c'est possible, Jules Stromboni?
C'est possible, oui. Moi, les studios d'animation, je les fréquente plus, puisque quand même beaucoup de choses se passent à Paris. Et que moi, j'ai pris mes distances avec ce milieu-là. Parce que j'avais envie de consacrer mon temps à autre chose qu'aller en studio et participer à un aussi magnifique film que puisse être Persepolis. Mais voilà, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de découvrir un peu une autre vie, ouais.
Une autre vie. Astrid de France, ce désir d'une autre vie, d'un autre monde, il est au centre de cette bande dessinée de Shakespeare World.
Oui. Un vœu pieux.
Pourquoi vous dites un vœu pieux?
Peut-être pas très, très optimiste, mais oui, de toute façon, même dans Shakespeare, même dans le livre, il y a cette idée de l'ailleurs et qui pourrait être l'ailleurs qui serait une utopie, qui serait mieux. Et il y a quand même la volonté de se dire qu'on pourrait peut-être tout réinventer. C'est d'ailleurs ce que font certains personnages, ce qu'essaient de faire certains personnages.
Il y a des résonances avec ce qu'on vit, ne serait-ce que ces manifestations, cette violence que vous décrivez dans cette bande dessinée. Ça se termine d'une manière tragique, ça je peux le dire. Mais en même temps, cette fin, c'est aussi la promesse d'un nouveau monde. Vous y croyez, vous, Astrid de France?
Oui, oui.
Heureusement que vous me dites ça, hein. Parce que vous êtes jeune, et vous, Jules Stromboni.
Si je crois à un nouveau monde...
Bah oui, vous venez d'avoir un enfant, c'est ça?
Oui,
félicitations.
Oui, effectivement, merci. Non, je crois que... Enfin, je ne serais pas aussi tranché qu'Astrid, mais je crois que c'est le même monde qui va continuer, qui va muter. Alors, honnêtement, je ne sais pas quel chemin ça prend. Moi, je trouve que cet album est plutôt une dystopie plutôt qu'une utopie, mais je pense qu'on est capable quand même de mieux. On est un peu plus intelligent que ça. On est capable d'avoir un peu plus d'imagination.
Mais c'est la définition même de la dystopie. On imagine le monde courir à sa perte pour pouvoir en construire un nouveau, non?
Alors oui, je connaissais pas cette nuance dans le terme, mais
non, c'est juste ma définition.
Ah ouais, d'accord. Mais non, mais ça passe par quelque chose de. Enfin, j'ai l'impression que dans la dystopie, il faut avoir touché le fond pour pouvoir un peu remonter la surface. Et touchons le fond. On va essayer de remonter après.
On va terminer là-dessus. Mais Astrid, vous gardez le sourire quand même.
Oui.
Merci d'être passé ce matin. Astrid de France et Jules Stromboni pour nous parler de Shakespeare World. C'est édité chez Casterman, une bande dessinée que je vous recommande vivement.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr. Et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
À la coordination, Corinne Amar. À la réalisation, Laure Chanel et Vincent Abouchard. Et à la prise de son ce matin, Valentin Azan Zielinski. Bon vendredi, bon week-end sur France Culture. On se retrouve lundi.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture. Des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, L'esprit d'ouverture.
Entre la surmédiatisation et la méconnaissance, l'émission Questions d'Islam aborde ce sujet avec calme, sérénité, distanciation, discernement.
Fatwa, éclaircissement, réponse à une situation inédite, avis religieux. Khaleb Bencher propose une étude sémantique du terme fatwa et une histoire de son détournement. Questions d'Islam, ce dimanche, dès 8h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Celui qui, dans la vie, est parti de zéro pour n'arriver à rien dans l'existence, n'a de merci à dire à personne.
Roi de l'absurde, il a inspiré une génération d'humoristes. Soirée Pierre Dac sur France Culture, dans Mauvais Genre et la fiction. Portrait d'un virtuose des mots engagé dans la résistance, pour qui le rire était une arme magnifique. Puis plongé dans une épopée radiophonique loufoque, des centaines de barbus enlevés par Furax. Soirée Pierre Dac, ce samedi dès 21h, suite et fin dimanche à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'avenir devrait s'éclaircir entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. À une semaine du Brexit, les deux parties ont trouvé un accord. Des concessions de part et d'autre ont été faites, ce qui permet à chacun de se féliciter de cette entente économique. Analyse diplomatique dans ce journal. Et puis réaction de l'eurodéputée Karima Delli. Elle rappelle que le Parlement européen doit encore valider cet accord. Dans ce journal aussi, nous entendrons le député Jean-Luc Retzer, survivant du Covid-19 il y a 7 mois. Nous irons au Japon, où la troisième vague de l'épidémie est violente en ce moment. Et puis retour sur le discours de fin d'année du roi Felipe VI en Espagne. Il appelle au respect des principes moraux en plein scandale autour de son père Juan Carlos. 4 ans de rebondissement pour un accord annoncé le soir du réveillon de Noël. Le Brexit sera finalement encadré par un texte de près de 2000 pages. Bruxelles et Londres ont trouvé un terrain d'entente et s'en félicitent d'ailleurs ouvertement. L'Union européenne a tenu bon face aux exigences britanniques, Bertrand Galichet.
Après 10 mois de négociations sur un texte de 2000 pages, les signataires affichent la même satisfaction de part et d'autre. Impossible de dire qui a gagné ou perdu dans ce bras de fer, mais le front commun des Européens a pesé lourd dans la balance. Emmanuel Macron juge que l'unité et la fermeté européenne ont payé. Des mots employés à l'identique par l'eurodéputée et ancienne ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau. Et une ligne de conduite observée depuis le début par Michel Barnier, le négociateur européen rappelait encore il y a 2 semaines que l'Union ne sacrifierait jamais son avenir pour un accord susceptible de fragiliser le grand marché unique. Le président du Conseil européen, Charles Michel, lui aussi, a constamment fait valoir la solidarité entre les 27, assurant que l'unité des pays membres serait garantie sans qu'une feuille de cigarette ne les sépare jusqu'à la dernière seconde du processus. Une attitude indispensable dans cette négociation marathon qui a parfois ressemblé à une partie de poker.
Alors, qu'y a-t-il dans ce texte, dans cet accord ? Un compromis complexe sur la pêche d'abord. Les pêcheurs européens devront chaque année pendant 5 ans reverser à Londres 25% de leurs poissons dans les eaux britanniques. Quota renégocié ensuite au bout de 5 ans, ce qui agace les pêcheurs européens et notamment français en bord de Manche. Il n'y aura par ailleurs aucun droit de douane sur les produits britanniques qui arrivent dans l'Union européenne. Un engagement aussi à une concurrence équitable et puis un mécanisme pour arbitrer les différends. Beaucoup d'élus, on l'a entendu à l'instant, affichaient dès hier leur satisfaction face à cet accord entre Londres et Bruxelles. Mais ce n'est qu'une étape, voilà ce que veut surtout rappeler l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts, Karima Delli.
Pour l'instant, ce n'est qu'un accord qui est provisoire, puisque nous attendons l'accord des États membres et puis, bien sûr, l'accord du Parlement européen.
Donc, vous êtes encore plutôt prudente.
Il est vrai que nous allons rentrer dans une période un peu, on peut le dire, délicate. Nous avons toujours plaidé pour un accord. Néanmoins, la temporalité, on peut un peu la regretter de cet accord, parce que l'application provisoire, de fait, du texte avant l'examen et le vote du Parlement, c'est un petit peu dommage. Le Parlement ne doit pas être une chambre d'enregistrement. Nous allons examiner attentivement tous les points, aussi bien sur le volet des transports routiers, du transport aérien, que les règles du marché intérieur, et bien sûr la question de la pêche qui sera au cœur de nos préoccupations.
Autre passage indispensable pour que cet accord soit appliqué dans les jours qui viennent, il faudra une approbation du Parlement britannique à Londres. A priori, le Premier ministre Boris Johnson y sera soutenu. Le réveillon de Noël s'est déroulé étrangement hier soir en pleine pandémie de Covid-19. Comité restreint et masques recommandés en France. Aucun incident n'est signalé ce matin par les forces de l'ordre. Sur France Culture, nous avons choisi de rencontrer Jean-Luc Redzer, le député Les Républicains du Haut-Rhin, est un rescapé du Covid-19. Il a été le premier parlementaire officiellement atteint par le virus, avec de premiers symptômes dès la fin du mois de février, qui l'ont conduit à l'hôpital de Mulhouse, le mois de mars. Placé en réanimation, plongé dans le coma pendant 4 semaines, il a fini par s'en sortir et il en tire plusieurs leçons, Rosalie Lafarge.
De ces longues semaines passées entre la vie et la mort, Jean-Luc Redzer a bien failli ne pas revenir. Alors évidemment, ces fêtes ont une saveur particulière.
C'est vrai que Noël, je ne pensais pas forcément pouvoir le vivre et ma famille ne pensait pas pouvoir le vivre forcément avec moi. Et donc c'est vrai que c'est un peu une résurrection, quoi.
Le député de 68 ans l'assure, il va aujourd'hui très bien, même s'il a quelques séquelles.
C'est aussi une magnifique leçon de modestie et d'humilité que j'ai vécue. Parce qu'on imagine que tout va bien, qu'on est en pleine forme. Mais quand on doit apprendre les gestes quotidiens, ne serait-ce que pouvoir déglutir, ne serait-ce que pouvoir marcher même quelques pas et faire sa toilette soi-même, c'est aussi une belle leçon d'humanité.
Remis sur pied, Jean-Luc Redzer a fait son retour à l'Assemblée en octobre sous les applaudissements nourris de l'hémicycle.
Merci mes chers collègues.
Il a profité du micro pour demander au Premier ministre de s'engager à ne plus fermer de lignes de service dans les hôpitaux, marqués évidemment par ce qu'il venait de traverser.
J'ai été maire pendant 34 ans de ma commune, petite ville d'Alsace, Altkirch, où il y a un hôpital. Donc j'ai déjà connu, si vous voulez, du côté financier, du côté administratif, la lutte pour éviter des fermetures de services. Mais c'est sûr que de le vivre à l'intérieur, d'être le malade, on le voit différemment. Et c'est surtout à côté des chiffres, à côté des statistiques, il y a tout l'aspect beaucoup plus humain.
Terriblement reconnaissante envers ceux qui se sont occupés de lui, Jean-Luc Redzer fait de la revalorisation matérielle et financière des soignants un combat qu'il espère là encore victorieux.
Rosalie Lafarge pour France Culture. La fin d'année covidée encore, avec des messes de Noël hier soir, devant très peu de fidèles, de la place de la Basilique Saint-Pierre à Rome jusqu'à celle de la Nativité de Bethléem. En cette fin d'année 2020 encore, le Japon subit une troisième vague de Covid-19, plus forte encore que les deux précédentes. La faute peut être à la baisse des températures dans le pays. En tout cas, les médecins à Tokyo lancent un appel au secours, Karine Nishimura.
Le docteur Ozaki dirige l'association médicale de Tokyo et selon lui, le système hospitalier est au bord de l'effondrement.
Pendant les 3 semaines à venir, je vous en supplie, après le travail, rentrez directement chez vous. C'est la dernière chance.
Tokyo, mégapole de 14 millions d'habitants, n'a en temps normal que 150 lits pour les patients en grande détresse. On pousse les murs, mais l'exercice a ses limites. Il faut vite stopper les infections, selon le médecin Masataka Inokuchi.
Il y a de très fortes tensions dans les hôpitaux qui accueillent les urgences. On en vient à refuser des patients.
Le gouvernement a traîné pendant des semaines avant d'accepter de stopper, à partir de lundi prochain seulement, une campagne d'incitation au tourisme à travers le pays, privilégiant clairement l'économie.
Le corps médical a déclaré l'état d'alerte maximale, mais une déclaration seule ne suffit pas.
Le corps médical aux abois sera-t-il entendu ? Le Premier ministre Suga, en chute libre dans les sondages, doit s'exprimer ce vendredi en fin de journée. La probabilité est faible cependant qu'il annonce des mesures drastiques.
C'était Karine Nishimura depuis Tokyo. Son discours était particulièrement attendu hier. Discours de Noël du roi d'Espagne, Felipe VI, touché par les scandales financiers liés à son père, le roi émérite Juan Carlos. Exilé depuis le mois d'août dernier aux Émirats Arabes Unis, ce dernier est visé par 3 enquêtes judiciaires. Et c'est donc dans ce contexte que Felipe VI a réalisé hier soir la traditionnelle allocution télévisée. Il y a-t-il parlé de son père, Marie-Hélène Ballestero ?
Finalement, il en a parlé, mais de façon courte et évasive. En tout, le discours de Noël du roi Felipe VI a duré près de 13 minutes et la brève allusion au scandale financier lié à son père, moins d'une minute. Sans jamais le nommer directement, le monarque espagnol a appelé au respect des principes moraux et éthiques.
Déjà en 2014, lors de mon intronisation devant le Parlement, je m'étais référé aux principes moraux et éthiques que les citoyens nous réclament. Des principes qui nous concernent tous, sans exception, et qui sont au-dessus de toute considération, quelle que soit leur nature, y compris personnelles ou familiales. C'est ainsi que je l'ai toujours entendu, en accord avec mes convictions et ma manière de concevoir mes responsabilités comme chef d'État, dans l'esprit de réforme qui inspire mon règne depuis le premier jour.
Depuis la fuite de son père aux Émirats Arabes Unis en août dernier, Felipe VI ne s'était pas prononcé sur la question. Mais la multiplication des affaires ces derniers mois autour du roi émérite l'ont contraint à sortir de sa réserve. Mais comment a été perçue cette référence implicite à son père hier soir? Tandis que les médias de droite se montrent satisfaits, à gauche, on critique cette timide allusion jugée totalement insuffisante. Beaucoup regrettent aujourd'hui un langage plus clair et direct.
Marie-Hélène Ballestero en Espagne pour France Culture. Nous revenons maintenant en France métropolitaine pour quelques mots de météo. Les pluies seront légères ce matin du centre jusqu'au nord de la France. Ailleurs, le temps oscillera entre nuages et éclaircies. En ce 25 décembre au matin, les températures sont assez homogènes et fraîches. 4 degrés en moyenne au nord de la Loire, entre 5 et 9 au sud. Il est 6h40, vous écoutez toujours France Culture. Nous retrouvons Julie Gacon pour les enjeux internationaux. Ce matin, Julie, le Covid-19 est la fin de l'innocence technologique.
Bonjour Clara. Oui, c'est l'expression de notre invité Thomas Gomard. Le cyberespace est devenu le terrain privilégié tout à la fois d'un capitalisme de surveillance et d'affrontement des puissances. Et le Covid-19 n'a pas fait que révéler cette mutation des rapports de force. Il l'a encore renforcé. Bonjour Thomas Gomard.
Bonjour Julie Gacon.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Le Covid-19 est la fin de l'innocence technologique. C'est le titre d'un article que vous avez fait paraître dans la revue Politique étrangère. Vous y parlez de la pandémie de coronavirus comme une crise technosanitaire. Alors on va comprendre peu à peu pourquoi. Pour commencer, comment les États ont utilisé la technologie pour gouverner, en l'occurrence pour juguler la crise sanitaire, la première crise sanitaire de cette nouvelle ère, l'ère de l'intelligence artificielle.
J'ai utilisé effectivement ce terme de technosanitaire pour illustrer le fait que cette crise de la Covid-19 et sanitaire dans ses causes principales et technologique dans ses conséquences principales. En effet, ce qui est frappant dans cette crise, c'est le décalage entre la matérialité des moyens nécessaires pour la traverser sur le plan sanitaire, je pense en particulier à la disponibilité des lits, à la question des tests, à la question des masques, et l'immatérialité des moyens utilisés pour la traverser en termes politiques ou de réorganisation. Et c'est tout ce qu'on a dû mettre en place en termes d'applications spécifiques pour le télétravail, par exemple, ou les applications en matière de traçage. Et quand on pose les choses ainsi, effectivement, on se rend compte que les pays n'ont pas le même rapport aux outils technologiques. Pour faire très simple, mais je pense qu'on va y revenir, ils sont extrêmement privilégiés et encouragés en Asie. Ils le sont moins en Europe, pour des raisons qui tiennent à la fois à la maîtrise technologique, mais peut-être plus certainement aux cultures politiques, aux cultures administratives et à la séparation que l'on peut faire entre ce qui relève des libertés publiques et des libertés individuelles.
Alors par exemple, ces technologies de traçage utilisées en particulier dans les pays asiatiques, qu'on admire par ailleurs pour leur efficacité, mais avec évidemment une grande pointe de suspicion sur l'utilisation qui est faite ensuite des données, mais vous écrivez que ces technologies étaient déjà en germe dans la prise en charge et le traitement des drogués à Singapour dans les années 90.
Oui, en effet, je crois que ça c'est l'exemple le plus significatif, c'est celui de Singapour et tout ce qui avait été élaboré sur le plan doctrinal, en quelque sorte, par Lee Kuan Yew, le célèbre premier ministre de Singapour, dont la politique a fait émerger Singapour en quelques décennies. Et je suis retombé, au gré de mes recherches, sur un entretien qu'il avait accordé à Farid Zakaria pour Foreign Affairs en 1994, où il explique qu'un pays comme Singapour n'a pas d'autre choix, en réalité, pour traiter un problème comme celui des drogués qui pose en termes de santé publique, n'a pas d'autre choix que de recourir au traçage. Ce qui, évidemment, au début des années 90, ne résonnait très différemment et aux États-Unis et en Europe. Et il explique qu'en réalité, il y a une une prédisposition en quelque sorte de la population de Singapour, une sorte de consentement tacite pour ces méthodes, qu'il explique rapidement par ce qu'on appelle les valeurs asiatiques. Pour faire très très simple, c'est de dire que le groupe prime sur l'individu et que donc, oui, il faut être prêt à, au fond, forcer les gens à se soigner pour garantir la sécurité de l'ensemble de la communauté. Et quand on relit cet entretien qui est encore une fois porté sur la question du traitement de la drogue comme problème de santé publique, on est quand même très frappé par la continuité et le fait qu'un certain nombre de pays asiatiques, qu'ils soient autoritaires ou qu'ils soient démocratiques, sont allés très loin dans la mise en œuvre et le recours à des outils technologiques comme outils de politique publique. Il y a le cas de Singapour, mais on pourrait parler également du cas de Taïwan, du cas de la Corée du Sud, du Japon. Et on le voit, ces pays ont un rapport à la technologie, ou plutôt considèrent que la technologie fait directement partie de la manière de gouverner. En Europe, on est évidemment beaucoup plus réticent vis-à-vis de cette approche.
C'est pour ça que la Chine dispose depuis assez longtemps d'applications dédiées au contrôle des mouvements de population et officiellement limitées à cela. Dans les communautés rurales aussi, on a vu en Chine pendant l'épidémie de coronavirus parfois des drones venir avertir la population du confinement, des consignes à suivre, etc. Alors consentement tacite peut-être, sauf qu'au début de l'épidémie, il y a eu des critiques sur les réseaux sociaux et à Pékin aussi, par exemple, je pense à la mobilisation de professeurs universitaires à Tsinghua, prestigieuse université de Pékin, contre la gestion de la crise par le parti. Et on n'en a pas tellement parlé, en fait, de ça.
Vous avez entièrement raison. Je n'ai pas mentionné volontairement la Chine dans la liste des pays évoqués précédemment, parce que dans le cas de la Chine, il y a aussi une mise en œuvre extrêmement, systématique des outils technologiques comme outils de contrôle. Et en fait, je crois qu'il faut se représenter l'orientation prise par les autorités chinoises comme un discours combinant d'une part ce qu'elles appellent la civilisation écologique et la mise en place des outils de surveillance. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui dépasse d'ailleurs la simple crise de la Covid-19, c'est cette idée sur laquelle, par rapport aux contraintes qui vont de plus en plus s'exercer sur les sociétés, que ces contraintes soient environnementales, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient d'autre nature, au fond, le besoin de contrôle, d'après les autorités chinoises, va en sortir renforcé. Au fond, ce qu'il faut arriver à penser simultanément quand on essaie de comprendre ce que font les autorités chinoises, c'est cette dialectique entre contraintes, je dirais, exogènes et contrôle intérieur rendu nécessaire ou justifié par ces contraintes exogènes.
Et sur le projet, sur le but de la Chine, est-ce que c'est davantage de surveiller la population ou de prendre l'avantage sur le leadership technologique, en l'occurrence américain ?
Vous avez les deux, évidemment. C'est-à-dire que le Parti communiste chinois a pour principal objectif son maintien en place et le maintien d'une organisation, et que cela passe effectivement par un contrôle extrêmement étroit des populations, par tout un système de capteurs technologiques qui lui permettent d'ailleurs de répondre très vite à un certain nombre de crises à travers le pays. Et puis, effectivement, nous sommes rentrés dans une phase de lutte pour la suprématie technologique au niveau global, où la Chine est en réalité la seule puissance aujourd'hui capable de rivaliser avec les États-Unis dans ce domaine. En fait, ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années, c'est que la Chine est devenue le numéro 2 du système international aux dépens des Européens, qu'elle est lancée dans une course visant à exercer le leadership international avec ce fameux horizon de 2049, centième anniversaire de la création du Parti communiste chinois, et qu'elle considère que pour ce faire, elle doit disposer d'une avance technologique, mais aussi de capacités lui permettant, je dirais, une approche latérale des conflits, c'est-à-dire pas simplement une approche basée sur la dimension militaire, mais une approche des conflits lui permettant d'être très active dans le domaine financier, très active dans le domaine sanitaire, très active dans le domaine environnemental. Enfin, je pourrais comme ça énumérer l'ensemble des champs, mais qui font que effectivement la Chine investit massivement sur la technologie, à la fois à des fins de contrôle intérieur et à des fins de suprématie internationale.
Pour les entreprises du numérique, cette fois, chinoises ou pas chinoises, Thomas Gomard, la crise a été et est toujours, et c'est terrible à dire, une occasion unique de se développer avec des flux de données considérables, le confinement de plus de 4 milliards d'individus qui n'ont jamais été aussi connectés, comme vous l'écrivez dans cet article. Est-ce que la crise a contraint les États à repenser leurs relations avec les acteurs du secteur du numérique et les contraintes?
La difficulté, si vous voulez, quand on parle des acteurs du secteur numérique, c'est que c'est très large. En réalité, il y a un phénomène qui est visible, c'est ce qu'on appelle ce capitalisme de plateforme. Et vous avez cette notion de plateforme systémique, en fait, qui est en train d'émerger en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une captation de la valeur par un très petit nombre d'acteurs. C'est-à-dire que on est dans le paradoxe suivant, la technologie permet une individualisation extrême et dans le même temps aboutit à une forme de concentration du pouvoir de manière extrêmement forte. Et c'est ça qui, évidemment, est en train de rejouer avec la crise de la Covid. Pour le dire autrement, on a aujourd'hui une situation dans laquelle on se rend compte que tout ce qui a trait aux données de santé ou tout ce qui a trait aux données d'éducation sont en train de changer de main. Et que donc, la question, c'est effectivement le type d'interaction entre les États et ces grandes plateformes qui disposent de moyens d'investissement, qui disposent de moyens aussi de lobbying extrêmement puissants.
Alors, il y a les plateformes, mais aussi les entreprises qui travaillent dans le domaine, par exemple, de la reconnaissance faciale, des caméras thermiques, et plusieurs annoncent les unes après les autres être en train de développer de nouveaux outils, des dispositifs de détection, d'identification de tous ceux qui ont de la fièvre, par exemple. Certains disent qu'ils vont jusqu'à reconnaître des personnes, même si elles portent un masque. Que la Chine soit celle qui fait ces annonces est une chose, mais il y a aussi tous ceux qui seront prêts à acheter cette technologie-là par la suite.
La question, c'est au fond celle de rester dans la course technologique. Et c'est une question que l'on voit notamment posée en Europe à travers la question de la 5G. Il est évident que les États-Unis et la Chine sont dans une sorte de course pour obtenir la suprématie technologique. La question que ça pose pour les Européens, mais aussi pour des pays comme l'Inde, le Brésil, etc., c'est dans quelle mesure ces pays sont-ils d'abord en mesure de concourir? Et ensuite, on voit aussi qu'il y a des mouvements d'opinion qui sont de plus en plus inquiets par cette propagation technologique. On le voit notamment à travers la 5G et les demandes de moratoire sur son déploiement qui peuvent être formulées par certaines forces politiques. Je crois que le fond de l'affaire, c'est en réalité de comprendre que on va avoir des interactions, un enchevêtrement entre politique publique et grandes plateformes dans ce que j'appellerais à la fois l'extraction de données et également le stockage et ensuite l'exploitation de ces données. Ce qui est en train de se passer, si vous voulez, c'est qu'on avait, pour faire très très simple, une économie politique qui a reposé depuis 45 sur la maîtrise des flux de pétrole et de gaz, pour faire très très simple, et on rentre dans une ère où ce qui est en jeu, c'est le contrôle des flux de données, en sachant que, à la différence des ressources fossiles qui sont limitées, les ressources en données sont illimitées et vont croître de manière exponentielle dans les années qui viennent, à la fois parce que nos vies sont désormais régies au fond par nos terminaux numériques, mais que à cette dimension, je dirais, individuelle, s'ajoute ce qu'on appelle l'Internet des objets, c'est-à-dire toutes les données qui vont être générées par les interactions que les objets vont avoir entre eux avec le contrôle et l'orientation qu'on donnera à ces interactions. Autrement dit, la donnée, la maîtrise de la donnée devient l'enjeu principal de, je dirais, la rivalité économique, mais également de l'organisation politique de nos systèmes.
D'où l'importance et notamment l'enjeu pour l'Europe, cette fois, qui est quand même très à la traîne dans cette concurrence technologique se mène Chine et États-Unis, de construire une politique de la donnée. C'est aussi un enjeu de souveraineté politique.
Si vous voulez, intellectuellement, politiquement, la Commission européenne et je pense l'ensemble des États membres ont énormément évolué au cours des deux dernières années, évolution accélérée par la crise de la Covid-19. C'est tout à fait évident. C'est-à-dire que, au fond, les Européens ont mis 15 ans pour comprendre le Safe Harbor. C'était le dispositif qui existait entre les États-Unis et l'Union européenne pour le transfert de données de consommateurs européens vers les plateformes américaines. Bon, là, je pense que tout le monde comprend bien ce qui est en jeu, c'est-à-dire que la donnée devient l'élément à la fois central, comme vous le disiez, de l'activité économique, mais également un élément indispensable à l'organisation politique, tout simplement. Donc, il y a une prise de conscience qui s'était déjà traduite dans ce qu'on appelle le Règlement général pour la protection des données, le RGPD, donc tout le monde s'est familiarisé avec ça. Ce qui est intéressant de la part de la Commission actuelle, c'est de dire, en fait, il y a la question des données personnelles, sur laquelle, effectivement, les Européens ont plutôt subi, même si la réglementation qu'ils mettent en œuvre va obliger les plateformes, en particulier les plateformes américaines, à s'amender. Et c'est d'ailleurs déjà visible dans le grand chantier qui s'est ouvert sur ce qu'on appelle le Digital Service Act et le Digital Market Act qui ont été présentés la semaine dernière par la Commission. Mais là, on rentre dans une phase d'intenses négociations, de lobbying, où la dimension politique aussi entre les États-Unis et l'Europe va évidemment jouer. Mais l'Europe, au fond, essaie de dire, bah, écoutez, pour les données industrielles, d'abord, les Européens disposent d'acteurs industriels de tout premier plan, ce qui n'était pas le cas sur les données individuelles, puisque il n'y avait pas les plateformes ou les moteurs de recherche tels que ceux qu'on utilise et qu'on connaît tous. Mais en ce qui concerne les données individuelles, l'Europe dispose à la fois d'actifs industriels et surtout semble avoir une vision claire de ce qu'il faut faire. Maintenant, entre l'intention initiale et les actes, il y a toujours un écart, et cet écart va être l'objet de vives batailles politiques de lobbying dans les années qui viennent.
Merci beaucoup Thomas Gomard d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre dernier livre, L'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques, paru l'année dernière aux éditions Talendier. Il est désormais disponible en livre de poche. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci aussi à Marine Beccarelli de m'avoir aidé à préparer ces entretiens matinaux cette semaine encore. La semaine prochaine, c'est Antoine Dulster que vous retrouverez dès 6h45 tous les matins pour les enjeux internationaux. Et bien, quant à moi, je vous donne rendez-vous en 2021, donc, et je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année.
Pour la fin d'année, offrez-vous France Culture. Des philosophes amoureux, des animaux, les dernières nouvelles de l'univers.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
La critique, c'est un temps donné tous les vendredis aux commentaires subjectifs et informés de l'actualité culturelle.
Sur France Culture, la critique, Lucille Como.
Avec des critiques de tous bords et de tous genres pour que vive ce goût partagé et contagieux de la dispute, qu'elle concerne des films, des livres, des expositions, des séries, des bandes dessinées, bref, tout ce qui s'aime et se discute.
De beaux livres pour petits et grands à offrir à Noël, la sélection de la critique, ce vendredi dès midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Vous écoutez France Culture. Dans un instant, les matins commencent avec vous, Guillaume Erner. Mais d'abord, votre humeur du jour. Bonjour.
Mais bonjour, Julie Gacon. La bête à picots a causé beaucoup de débats et de dégâts sur lesquels il n'est pas forcément utile de revenir. Elle a notamment eu la peau de l'une des publications les plus précieuses de Noël. Je veux parler des suppléments cadeaux, car cette année, contrairement aux années précédentes, eh bien, je n'ai pratiquement pas trouvé de suppléments cadeaux à me mettre sous les yeux. Drôle d'année, déjà que nous n'avons plus de catalogue IKEA. Je vous le rappelle, comment faire si en plus nous n'avons plus de suppléments cadeaux? Une époque se tourne, non pas celle du consumérisme, tranquillisez-vous, mais les rêves consuméristes, les projets du consommateur sur papier glacé. En lisant les suppléments cadeaux, vous compreniez enfin ce que vivait le pharaon mort entouré d'objets. Les suppléments cadeaux renseigneront beaucoup plus les anthropologues du futur sur notre civilisation que beaucoup de magazines avec lesquels ils étaient vendus. Ils nous rappellent que nous vivons dans la dernière société primitive au monde, celle qui célèbre des totems et des talismans appelés Marc et autres montres, une société placée sous le signe de ce que Marx appelait le fétichisme de la marchandise, car la marchandise, poursuivait-il, est pleine de subtilités métaphysiques et d'arguties théologiques. Celui qui ne comprend pas la différence qu'il y a entre une Rolex et une Breitling, un iPhone et un Huawei, un Chanel ou un YSL ne comprend vraiment pas le monde qui l'entoure. Ce n'est pas que notre société soit matérialiste, elle est au contraire spiritualiste, elle confère un esprit aux objets. Alors, ce n'est pas un hasard si ce sont les magazines qui accompagnaient les suppléments cadeaux, car ce sont eux qui ont accompagné cette célébration des objets dans la France des Trente Glorieuses, à l'époque où l'on nous promettait de vivre comme des dieux, mieux comme des cadres. Ce sont ces magazines qui ont construit le temple de la consommation dans les années 1960, comme le rappelait Georges Perec dans Les Choses, un livre qui ne parle que de suppléments cadeaux, sous-titré Une histoire des années 60, un livre où les deux personnages lisent l'Express, le magazine, comme dit Perec, leur offrait tous les signes du confort, les gros peignoirs de bain, les trucs utiles, les plages à la mode. Avec les suppléments cadeaux des magazines, la littérature est partie, seules les choses sont restées.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et aujourd'hui, nous allons parler de Dieu, de spiritualité. Nous serons en compagnie du philosophe Jean-Luc Marion et de Thomas Romer, administrateur du Collège de France, mais aussi professeur titulaire de la chaire Milieu biblique. 7h sur France Culture et nous sommes le vendredi 25 décembre 2020. Bon réveil à tous.